Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On peut raconter 100 fois ses débuts dans la carrière et se renouveler. Mais là, les débuts étaient tout proches. Nous étions le 22 août 1945 sur la chaîne nationale. Confidence de vedette, Bernard Blier au micro d'André Bourillon. Un document dont, hélas, la qualité sonore n'est pas excellente, mais l'émission est courte.
Ce soir, nous avons à notre micro la vedette de cinéma, Bernard Blier, que vous connaissez certainement tous pour l'avoir vu jouer en particulier dans Marie-Martine, Domino et bien d'autres films d'ailleurs. Et notre petit bavardage a commencé par la question traditionnelle. Dites-moi, monsieur Blier, dans quelles circonstances se sont passés vos débuts ?
J'ai commencé à faire du théâtre, d'abord parce que j'en avais envie, mais j'ai commencé à jouer la comédie par accident. J'avais été recalé au conservatoire.
Ah bon ?
Alors j'avais été voir les Pontes de l'époque, en l'occurrence d'ailleurs des Pontes très bien, des Pontes qui étaient Léon Bernard et des grands acteurs du moment. Mmh. Je dis l'époque comme si c'était très vieux, en réalité ça remonte à 1937. Et on m'avait dit, t'as été recalé au conservatoire, ça n'a aucune importance, mais il faut que tu trouves une espèce de souplesse dans ton métier et que tu acquières un peu plus d'habitude du plateau, alors il faut jouer. Alors j'ai été jouer. Je vais d'abord commencer par rencontrer un type dans un train qui m'a dit qu'il allait m'emmener en tournée dans le midi de la France. Et il m'a emmené dans le midi de la France pour jouer des classiques. J'ai donc débuté en jouant Jodelet des Précieuses Ridicules et Sylvestre des Fourberies de Scapin. Ceci pour un public d'étudiants des Bouches-du-Rhône.
Vous étiez dans l'ambiance par conséquent.
Oui, mais eux pas du tout. Parce qu'ils nous ont sifflé très rapidement. Je me souviens qu'il y a eu, à Aix-en-Provence en particulier, on s'est fait siffler.
Bon.
Mais ils avaient raison d'ailleurs. Parce que c'était pas très bon comme spectacle.
Vous êtes méchant avec vous.
Non, je demande pardon aux camarades qui m'accompagnaient, s'il y en a qui écoutent ça, mais enfin, ils doivent se rendre compte en mettant la main sur la conscience que le spectacle était ce qu'on appelle un peu gratiné, comme on dit dans la profession. Alors là, j'ai commencé, je portais les bagages là-dedans, je touchais 80 francs par jour, on voyait en troisième classe, mais enfin, c'était tout de même un bon souvenir. Et puis après ça, je suis revenu, cette tournée a duré 8 jours, j'en parle comme si ça avait duré un an, mais non, ça a duré 8 jours, heureusement.
8 jours de succès.
8 jours de succès mitigé et de concerts variés parmi le public. Alors je suis revenu d'ailleurs de Marseille à Paris, toujours en troisième classe, et pendant tout le parcours, tous mes camarades se sont mis d'accord pour me prédire que je jouerais jamais la comédie et qu'il valait mieux que j'abandonne. Enfin, ça m'a pas découragé. Ça m'a découragé sur le moment. Mais après, mon Dieu...
Vous êtes repris.
Je me suis repris très vite. Puis alors, en rentrant à Paris, j'ai recommencé à préparer le conservatoire et puis j'ai joué dans un spectacle qui s'appelait à l'époque le spectacle Yves Renaud, qui était organisé par M. Yves Renaud. Je ne veux pas dire de mal, mais enfin, tout ce que je peux dire de lui, c'est qu'il prenait des jeunes comédiens qui ne payaient pas.
Ah bon ?
Il prenait des jeunes auteurs qu'il faisait payer, car les jeunes auteurs lui donnaient beaucoup d'argent pour faire jouer une fois leur pièce. Et ainsi, vous calculez, n'est-ce pas, il touchait de l'argent des auteurs, il n'en donnait pas aux comédiens, et il montait un spectacle qui, lui, rapportait beaucoup d'argent. Il se foutait complètement du public. Il y avait du public ou pas, ça le gênait peu, parce que
ça lui rapportait de toute façon.
Oui, l'opération était gagnée d'avance. Alors on jouait des spectacles variés. Ça allait quelquefois de la pièce en un acte complètement idiote à la pièce en un acte de valeur. Il y a eu des auteurs qui se sont révélés. Je me souviens même d'y avoir joué une pièce de Tristan Bernard.
Tiens.
Qui n'avait certainement lui pas donné un sou pour jouer la pièce, heureusement, j'en suis persuadé. Mais j'ai joué une pièce de lui qui était charmante. Et j'ai même joué la tragédie dans cette histoire-là. Parce que j'étais devenu une vedette des spectacles Yves Renaud.
Vous faisiez les jeunes premiers classiques.
Ah non, moi je jouais les vieux. J'avais 18 ans et je jouais les barbus, je jouais les grands-pères, je jouais les vieux barons d'Empire, toujours. Ça se passait toujours comme ça. Après, j'ai joué une pièce au théâtre, un théâtre qui est rue des Martyrs, qui s'appelle La Nouvelle Comédie, qui est devenu un cinéma maintenant. J'ai joué une pièce qui s'appelait Interlude, et qui était une pièce, d'ailleurs, c'est une histoire assez curieuse. J'ai débuté là avec Monique Mélinan, et qui est une de mes vieilles camarades de théâtre. Et nous avons d'ailleurs connu Jouvet ensemble le même jour par la suite. Enfin, c'était une autre histoire.
Vous n'avez pas quelques petites anecdotes à nous raconter sur vos débuts au théâtre ?
Sur les débuts, non, si ce n'est que... J'ai eu des mésaventures en jouant la tragédie parce qu'il a fallu que je me rase les poils des jambes. Et j'ai joué Buruste pour les théâtres universitaires classiques. Ça, c'est par la suite, quand j'étais élève du conservatoire. Enfin, vous voyez, des anecdotes, il y en a 1000, seulement pour le moment, je ne m'en souviens guère.
Oui, je comprends très bien.
Oui, je l'ai fait tout seul.
Et ensuite, vous êtes passé au cinéma.
Ben, après, j'ai travaillé avec des gens très bien, alors j'ai eu la chance de pouvoir évoluer, et j'ai eu la chance de subir des influences prépondérantes, enfin, qui m'ont beaucoup servi. D'abord, j'ai travaillé avec Raymond Rouleau, qui m'a fait débuter au théâtre d'une façon officielle et normale, enfin, pas officielle, c'est un grand mot, mais enfin, dans un travail honnête. Mm-hmm. Et j'ai joué, quand j'étais au cours de Raymond Rouleau, il y avait énormément de camarades, Odette Joyeux, Gilbert Gilles, Chevrier, Gaby Sylvia, Mercanton, enfin, des tas de camarades... qui ont tous...
qui sont devenus des vedettes, d'ailleurs.
Qui ont tous bien marché après. Alors, nous avons joué Altitude 3002 à la création, cette pièce qu'on a jouée pendant je ne sais pas combien de fois par la suite, que tous les jeunes acteurs d'Europe ont joué, je crois. Alors, nous l'avons créée au Théâtre de l'Étoile. Ça a eu un assez gros succès. Et puis, je suis venu au cinéma par accident.
Alors, dites-moi, pouvez-vous me parler un petit peu de vos débuts au cinéma, c'est-à-dire de vos premières impressions de prise de contact avec les sunlight, avec les caméras?
Bon, mon Dieu, moi, je trouve que j'ai un vieux principe. Je suis jeune, mais j'ai déjà un vieux principe qui consiste à déclarer qu'on joue la comédie au théâtre et au cinéma de la même façon, qu'il n'y a pas deux façons de jouer la comédie. Enfin, j'ai été un peu surpris au cinéma, mais par la suite, quand je me suis rendu compte de la gravité que pouvait donner une prise de vue. Parce que quand j'ai commencé à faire du cinéma, je m'en fichais complètement. Je ne pensais qu'à une chose, c'était d'abord à bien m'amuser dans la vie.
Et vous aviez raison, d'ailleurs.
Oui, remarquez que j'y pense toujours, seulement. Maintenant, je me rends compte que la situation est quelquefois grave au cinéma parce qu'on joue une scène... Et puis elle est finie, la scène, elle est jouée. Mmh. Et 3 ans après, on passe à Bourges ou à Romorantin et on voit la même scène aussi mal jouée que le jour où on l'a jouée la première fois. C'est une chose officielle, c'est marqué, c'est gravé, il n'y a rien à faire. Alors quand je me suis rendu compte de ça, j'ai eu le trac. Mais au début, je ne me rendais pas compte du tout et je n'avais pas le trac. C'est-à-dire que le monsieur qui m'a donné le respect du cinéma, c'est Carnet, qui m'a tellement attrapé quand j'ai tourné Hôtel du Nord pour lui que... Il m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a donné le respect que j'avais quand même, mais enfin c'était mon subconscient qui l'avait, c'était pas moi.
Oui, je comprends très bien.
Lui m'a appris à travailler très sérieusement.
Et vous êtes originaire, j'ai oublié de vous poser cette question au début, de quelle région?
Alors c'est très compliqué ça. Je suis de parents français, de père picard, de mère bourguignonne, je suis né à Buenos Aires par accident, et je me considère comme savoyard de cœur. Alors vous voyez, c'est l'histoire.
En effet, c'est très compliqué. Ouais. Mais dites-moi, vous n'avez pas quelques petites anecdotes qui se seraient passées au cours de tournées en province ou bien à l'étranger?
Ben, j'ai fait quelques tournées, oui. À part la première, là, j'en ai fait quelques-unes en Belgique, en Suisse, j'en ai fait un peu partout. Et j'en ai fait une en Suisse, et d'abord en Belgique plus exactement, qui a été assez compliquée.
Ah bon?
Oui.
Voulez-vous nous en parler un petit peu?
Ben oui, je ne sais pas si vous savez, enfin les auditeurs ne savent sans doute pas que... En Belgique, il existait avant la guerre, il doit même exister maintenant, des troupes régulières d'acteurs belges, qui étaient d'ailleurs des très bonnes troupes, et dont sont sortis beaucoup de comédiens, en particulier les comédiens du Marais, tels que Raymond Rouleau, Madeleine Ozeray, tous ces gens-là qui sont venus à Paris par la suite. Mais quand, au début, n'est-ce pas, avant cette période-là, il y avait à Bruxelles une troupe fixe qui jouait des pièces toutes les semaines, et qui recevait toutes les semaines un ou deux acteurs parisiens qui venaient, qui faisaient ce qu'on appelle la vedette, n'est-ce pas, le mouton à 5 pattes, qui arrivait la veille de la générale sans avoir répété ou presque. Enfin, je vais peut-être faire de la peine à des auditeurs belges en disant ça, mais enfin...
Non, allez-y.
Tous les comédiens français sont au courant de ça. Et alors, ils arrivaient, n'est-ce pas, les acteurs français arrivaient la veille, répétaient une fois dans des décors plus ou moins mal plantés, et on jouait, on se jetait à l'eau, quoi. Alors, un jour, on jouait je ne sais plus quel drame terrible. Ça se passait au Moyen-Âge, au Bas-Mot. Et alors viennent de Paris deux comédiens français dont je ne veux pas dire les noms parce que, mon Dieu, on ne sait jamais, ils ont pu garder un mauvais souvenir de cette histoire-là, bien que ce soit devenu un classique des mésaventures théâtrales. Alors ils arrivent pour jouer la pièce. La jeune première avait une robe en lamé or, enfin je crois que c'était du lamé. Et la robe était trop étroite pour elle. Alors derrière elle, n'est-ce pas, la robe sur le devant allait très bien, et derrière la robe était fermée par des lacets comme un corset.
Dangereux.
Oui, c'était déjà dangereux. Sur cette robe, elle avait une traîne, une grande traîne, c'est pas une traîne de reine, pas de doute. Et cette traîne tenait à un diadème, lequel diadème tenait à une perruque. Alors cette brave dame entre en scène, et le jeune premier derrière, qui devait avoir le trac, enfin il y avait quelque chose d'anormal, met le pied sur la traîne reste sous le pied du type, emmène le diadème, qui emmène la perruque, la femme affolée se retourne et fait voir son corset, elle se retourne, l'eau publique. Alors, premier succès d'hilarité.
Qui n'était pas prévu dans
le programme. Je vous cite cette histoire-là parce qu'il y a eu une suite, une cascade de catastrophes. Par la suite, le jeune premier arrive, se met au milieu de la scène pour déclamer une tirade, il enlève son épée, il s'appuie dessus et il met l'épée dans ce qu'on appelle au théâtre la costière, c'est-à-dire un trou qui est sur scène et qui sert à planter des décors. L'épée s'enfonce, comme dans les films de Charlot, vous savez, l'épée s'enfonce jusqu'à la garde, le type s'étale, pousse des hurlements et s'en va désespéré au milieu des hurlements du public. Et ça a été comme ça de Caribe en Sidla. Au moment où il s'en allait, le type affolé, n'est-ce pas, n'ayant plus aucune réaction, il a peur du public, et au moment où il s'en va, un machiniste qui était sous le plateau, voyant arriver l'épée, la repousse par la pointe, et l'épée remonte toute seule comme une fleur qui aurait poussé trop vite. Alors là, c'est devenu un drame. Alors ça, c'était le premier acte.
C'était le premier acte.
Après, il y a eu une autre histoire, il y avait en scène un acteur qui jouait le roi. Et il était assis sur un trône, comme tout roi de théâtre qui se respecte, et au moment voulu, devait entrer un messager qui devait apporter un pli. Alors, à la réplique, le messager rate son entrée. Il n'était pas là. Alors, le roi fait du texte et dit, voyons où est le messager, que fait le messager, mais ne vois-tu pas le messager? Si, je vois le messager, disent les partenaires en hurlant envers la coulisse, c'est pas de toute façon ce que le régisseur appelle le gars. Et en réalité, le messager n'avait pas du tout raté son entrée, seulement il était derrière la porte du décor. Le décor était mal planté trop vite, et on ne pouvait pas ouvrir la porte. Et alors, pendant que le roi et ses courtisans hurlaient en scène, où est le messager devant apporter le pli, ne sachant plus quoi en faire, le passe sous la porte.
Tout ça dans la même représentation. Mais dites-moi maintenant, il y a une scène que tout le monde se souvient à Paris, c'est la scène que vous jouiez avec Saturnin Fabre dans Marie-Martine. Vous vous rappelez cette scène, tiens, ta bougie droite.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
En fait, c'était une très bonne scène de cinéma. Bonne surtout grâce à Saturnin Fabre, qui est, à mon avis, je dis ça en passant, un des plus grands acteurs français.
Mm-hmm.
Français, enfin, c'est un des plus grands acteurs qu'on connaisse, parce qu'il a une invention comique constamment renouvelée, et c'est un acteur merveilleux pour lequel j'ai une plus grande admiration. Mon Dieu, c'est une scène qui s'est tournée normalement, sans histoire, parce que Saturnin Fabre, contrairement à ce qu'on raconte, est un homme très sérieux, très serviable, très aimable, très gentil. Mais comme je connais bien Saturnin Fabre, que j'ai beaucoup travaillé avec lui, que je l'aime bien et que je le vois souvent, ça me rappelle quelques aventures qui lui sont arrivées, parce que c'est un...
Mais racontez-nous ça un petit peu, oui.
En somme, vous me demandez des souvenirs, mais je vais profiter de...
Allez-y,
de ma jeunesse pour pouvoir placer les souvenirs des autres, vous comprenez, c'est très agréable. Comme ça, j'ai pas de responsabilité. Non, ben, Saturnin Fabre est un homme qui a été, au début de sa carrière, un des plus grands blagueurs qu'on puisse imaginer. Il était très ami avec deux acteurs qui sont devenus célèbres assez vite. Il y en a un qui est Daniel Mandaille, que tous les auditeurs en particulier connaissent très bien. Et puis alors un autre qui est malheureusement mort très jeune, qui s'appelait Decaille. Ils restent encore dans l'esprit des acteurs les plus grands blagueurs qu'on ait jamais connus.
Le trio des blagueurs.
Oui, enfin, je ne sais pas exactement s'ils étaient très bien ensemble, mais ils ont laissé chacun dans des styles différents un souvenir épatant. Et ça a commencé au conservatoire, ça. Ils étaient très drôles.
Ils ont commencé tout de suite.
Ah oui. Decaille, par exemple, s'est présenté au concours du conservatoire dans un conjuré d'Hermanni. Vous savez qu'il y a 12 ou 13 conjurés dans Hermanni. Et alors, il les faisait entrer un par un, et au moment où le président du jury se demandait, mais voyons, quel est l'élève qui passe, Decaille se mettait le nez à la porte et disait, c'est moi, monsieur le grand-père, il n'était pas encore entré. Puis il a fait des tas de choses comme ça. Enfin, il s'est présenté à une audition chez Réjeanne ou chez Sarah Bernard, je ne sais plus, en passant l'attaque du train dans le Tour du Monde en 80 jours. Il avait mis des chaises, il les arrivait en poussant des hurlements, en tirant des coups de revolver dans tous les sens. Puis c'était comme ça tout le temps. Quand ça, il est sorti du conservatoire, il avait écrit une scène de concours. Dans sa réplique, il avait écrit sa scène, vous comprenez, de façon à être sûr d'avoir un succès. Il avait écrit lui-même sa scène et il disait « Je suis ici par la volonté du peuple, je n'en sortirai que par la force des baïonnettes ». Il y avait des répliques comme ça tout le temps, qui n'avaient aucun rapport avec la situation. Il a eu d'ailleurs une bonne récompense. C'est un petit mot en passant contre les concours des conservateurs. Donc, on dit sur Saturnin Fabre, je ne suis pas encore venu là, mais enfin tout ce que je sais, c'est que Saturnin Fabre a fait des blagues historiques au moment où surtout il était à l'Odéon avec Decaille.
Alors racontez-nous une petite blague.
Alors, une des plus célèbres, c'est qu'il a, quand il était élève du conservatoire et déjà engagé à l'Odéon, il ne touchait pas un sou, comme tous les élèves du conservatoire qu'on a engagé à l'Odéon. Enfin, à l'époque, il devait toucher 150 francs par mois. Enfin, je sais pas, enfin, je dis ça, c'est peut-être un gros chiffre, mais enfin, il avait un salaire de misère. Et un jour, il a demandé une audience au ministre de l'Instruction publique. Enfin, il a été reçu après bien des difficultés, bien de la patience, il a été reçu ou par un chef de cabinet ou par le ministre lui-même, je ne sais pas. Et quand il a été en présence du ministre, il s'est trouvé mal dans le bureau en disant « Je suis à l'Odéon et j'ai faim ». Ça a fait un petit scandale et on l'a augmenté.
« Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 22 août 1945. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Ce monsieur-là vivait tranquille, le nez, le front, le cœur moyen. Il travaillait dans les textiles et son bureau lui plaisait bien. Il se couchait vers les 9h et ne rêvait jamais à rien. Heureux d'avoir sa montre à l'heure et sa femme qui cuisinait bien. Il aimait bien la vie de famille, il aimait bien faire sa manie, ce monsieur-là. Il aimait bien son tabac gris et son billard tous les samedis, ce monsieur-là. Comme tous les gens que la vie essouffle, il n'était heureux qu'en pantoufle et trouvait que tout allait bien puisqu'il ne lui arrivait rien. Mais un jour dans sa vie en rose, il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Il mit ses lunettes pour mieux voir. Bon sang, bon sang, bon sang, bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? La lila, la lila. Ce n'était qu'une lettre anonyme. Mon cher, ta femme a un amant. Je vous demande un peu à quoi ça rime. Mais si c'est vrai, c'est embêtant. Tous les mardis, 3 rue Bergère. C'est fou ce qu'il fait mal, ces 3. Et d'abord, qu'est-ce que ça peut faire, puisqu'au fond, ça ne m'intéresse pas. Il aimait trop la vie de famille, il aimait trop faire sa manie, ce monsieur-là. Mais il avait l'esprit ailleurs, il se faisait couper ses cœurs, ce monsieur-là. Et comme ça lui enflait la tête, il a demandé pour des emplettes, un petit congé, 2 heures pas plus, et a bondi dans l'autobus. Numéro 3 de la rue Bergère, à droite sous la porte cochère. 3 coups de sonnette, on ouvrira. Oh, je vous demande pardon. J'étais sûr que je me trompe. Tonnerre, tonnerre, de nom de là, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'était que sa chère Adèle, près d'un monsieur en pyjama. Sur une chaise, une paire de bretelles, sur le lit, une robe en taffetas. Sur la cheminée, une statue, un bronze du vieux roi Dagobert. De bons kilos à main tendue. Et ça n'a fait qu'un fait divers. Il n'était plus du tout tranquille, il se faisait une drôle de ville, ce monsieur-là. Ce n'est pas gai d'être criminel, faut tous les jours changer d'hôtel, pauvre monsieur-là. Tout son bonheur était par terre, il en pleurait des nuits entières. Tout ça pourquoi, je vous demande un peu, pour ces 20 mots sur papier bleu. En les regardant davantage, il vit une phrase au bas de la page. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était signé ni plus ni moins, un ami qui vous veut du bien.